Bonjour à tous, désolé pour le petit retard, surtout qu'on a à peine une centaine, une grosse centaine de slides à vous passer, donc ça va être compliqué. Cette conférence est expérimentale, nous n'avons pas la science infuse, donc c'est participatif. Si vous avez des anecdotes, des choses qu'on oublie, tout ça, n'hésitez pas à intervenir. Et elle est également participative dans le sens où chaque slide est un quiz en soi. Je vous demanderai d'être capable de répondre à... Évidemment, le concept est de trouver le jeu vidéo, ou le studio, ou le nom de l'auteur.
Ouais, on va voir.
Un truc, quoi. La région, peut-être. Notre idée derrière cette conférence était effectivement de faire découvrir ou de faire redécouvrir, d'une part, l'histoire un peu du jeu vidéo en France, et surtout, vous faire découvrir peut-être tous ces studios qui peuplent la France aujourd'hui et qui peut-être sont inconnus pour vous, vu que les plus connus sont toujours les mêmes, les plus gros, dont on parlera quand même. Également.
Ok.
Donc, je suis avec William de Swing Swing Submarine, un des vaillants studios français. Peut-être le reconnaîtrez-vous dans le PowerPoint.
Tout à fait. On est basé à Montpellier et on est vraiment un tout petit studio de 6 personnes. On a fait 3 jeux pour l'instant et on verra si on en fait un 4e. Voilà. On ne sait pas encore.
Bon, c'est parti du coup.
Ouais.
Ah ben, ça commence bien.
C'est, ouais.
On va faire avec les flèches. Hop. Donc première question, je vous ai dit, c'est un quiz. Combien d'après vous y a-t-il de jeux vidéo en France? De studios de jeux vidéo en France?
Une centaine. Il dit mieux. Mille.
Mille, carrément.
Entre 100 et 1000, la fourchette est bien là.
1 million.
Ouais. Vendu. Non, selon le site qui les recense de la FJV, l'Association Française de Jeux Vidéo, il y a 264 studios enregistrés. Alors, le chiffre est soumis à variation, hein. Certains apparaissent sans se présenter, et d'autres meurent dans la discrétion. Mais voilà, donc quelque part autour de 250 studios en France.
Et il me semble que c'est...
Sans slide. Hein.
Vas-y, continue, peut-être que tu...
Non, mais vas-y.
Ouais, d'accord. Ouais, et je crois qu'il y a à peu près 5000 employés en France.
Ouais, un truc comme ça.
Ouais.
Donc c'est une industrie importante, mais pas non plus majeure, ce qui fait qu'elle n'a pas forcément la faveur des politiques quand il s'agit de prendre des mesures en sa faveur. Donc, l'autre question, c'était celle de où sont, d'après vous, les studios en France? Alors là, je ne vais pas vous répondre, parce qu'évidemment, ils sont à plusieurs endroits, mais on va vous défiler un peu les différentes zones. Alors, c'est ce qu'on a, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a vu. Et si vous avez envie de compléter, vous n'hésitez pas.
Peut-être on peut préciser qu'on a fait que France métropolitaine.
Oui, c'est vrai. Ouais. Après, voilà. Donc, on va commencer par la région parisienne.
Bon, c'est le plus gros morceau, en fait.
Ouais, c'est 50% des studios.
Oh, je pense, oui.
Un truc comme ça. Enfin, ou de la masse salariale, en tout cas. Et donc.
C'est juste pour vous situer Paris.
Ah, vas-y, c'est toi facile.
Oui, bah, est-ce que quelqu'un connaît ce jeu? Billy la banlieue.
Bravo.
Tout à fait. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut voir que sur son écran, il y a sa date de fabrication directement.
86.
Donc, 86. Billy la banlieue, c'est...
Sans slide. Hein.
Sans slide. Oui, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut mettre en mode slide?
Non, parce que sinon, ça va être compliqué.
J'aurais bien aimé, moi.
On parle que de ceux dont on a envie. Vas-y, parle de Billy la banlieue. C'est un des premiers, donc c'est important.
Ah oui, sans slide. Non, c'était pour les notes.
Précurseur de GTA.
Non, mais c'était surtout Loriciel. Loriciel, qui était un gros studio de développement, mais aussi surtout d'édition. Loriciel, bah alors c'est ça, c'est que moi j'avais des notes, donc c'était cool.
Ah bah pourquoi tu l'avais pas mis en production?
Je sais pas comment on fait.
Ah mais voilà.
Diaporama, non?
Bah oui, mais.
Yeah. Mais par contre, est-ce qu'on est en non, on est en duplication, on n'est pas en étendue.
Ouais, ben.
Bah... Ah ok.
Mais sauf que. Ah oui, il est en. Ah oui, c'est ça. C'est que le PC n'est pas en étendue, voilà.
Mais...
Bouge pas.
Oui, mais donc Billy la banlieue, un jeu très important pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de rentrer à Super Info Game quand j'ai voulu rentrer à Super Info Game. Et c'est en effet un précurseur de GTA. Bon, c'est pas GTA, hein, clairement, mais on a tous les ingrédients de. On pouvait vraiment se balader, donc c'était un monde plus ou moins ouvert. Il me semble qu'il était même en boucle, comme dans pas mal de jeux, comme des shoots à cette époque-là. Et le but c'était. Alors je ne sais pas quel était le but de Billy la banlieue, parce qu'évidemment tous ces jeux-là, moi j'y ai joué quand j'étais vraiment très petit. Mais pour le coup, il fallait vraiment éviter des loubards dans la ville. Et Billy lui-même a l'air d'être un peu un loubard, mais peut-être que non.
Mais hop.
Alors, est-ce qu'on a.
Je suis pas sûr, hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais.
Là, on est plus ou moins.
On est plus ou moins bien.
Là, on est en mode étendu, mais.
Ouais. Mais il te manque tes notes. Ah
ouais,
non, c'est
bah
bon.
C'est bon,
ah,
c'est
bon,
ça.
On est parfait. Voilà. Allez, on continue.
Ok, attends, je voulais juste revenir sur Loriciel. Loriciel, les autres jeux de Loriciel qu'on connaît bien, c'est L'Aigle d'Or. Jeu. Infernal Runner. Alors, Infernal Runner, moi je connaissais la version Amstrad qui avait été portée par Eric Chahi. Donc, on reviendra sur Eric Chahi après, évidemment. Mais c'était une sorte d'Indiana Jones. Ça ressemblait en fait un peu à Prince of Persia, parce qu'il y avait plein de morts affreuses. Ou à Tomb Raider, on pouvait mourir de plein de façons différentes. Et Panza Kickboxing aussi, qui était juste en édition chez Loriciel.
Alors, qui reconnaît? Personne ne reconnaît. Je trouve que vous ne faites pas d'efforts. Voilà.
C'est mieux.
On y est. Non.
Pardon ?
Non plus. Alors, un des premiers jeux français avec de la synthèse vocale, c'était fabuleux, Le Manoir de Morteviel, tout à fait, par la société L'Encore, le premier jeu de L'Encore.
Donc là, alors, Billy la banlieue, c'était 86, là on est en 87. Et donc oui, Le Manoir de Morteviel, mais je crois que Alain Puget, qui est un développeur qui habite à Nantes, aime aussi beaucoup Mopiti Island.
Ah, Mopiti Island, mais moi aussi, c'est le jeu que je retiendrai de L'Encore.
Donc des jeux d'aventure, et en effet, on aurait pu confondre avec Alone in the Dark. Bon, Alone in the Dark n'a pas du tout cette vue-là, mais c'est vraiment le Il y a eu beaucoup de jeux d'aventure en France.
Et alors, L'Encore, une société qui a tenu jusqu'en 2001, et on va revenir sur cette date approximative, 2001-2002, puisque c'est le moment où beaucoup de studios se sont crashés. Ça a été un peu la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Donc L'Encore a fait des jeux jusqu'en 2001, ils ont fait une trentaine de jeux, ce qui est quand même pas mal. Un autre jeu mythique.
Bon, là, c'est facile.
Ah, mais non, ça passe pas de l'autre côté, quoi.
Moi, je trouve ça facile, mais comme il le voit pas, c'est pas facile.
C'est difficile. C'est difficile du coup. Voilà, Captain Blood.
Et son, alors, c'est pas le seul créateur, mais son créateur le plus connu, on va dire. Non, pas Eric Chahi du tout. Non plus. Il est un peu fou. Il aime bien les extraterrestres.
Il est un peu sorti de l'univers du jeu vidéo. C'est pour ça, Eric Chahi, Michel Ancel, on les connaît encore, mais
il vient du monde de la musique au début, il me semble.
Il y est retourné d'ailleurs.
Oui. Il y est retourné.
Bah non, mais c'est vrai.
Il a créé la statuette des Ping Awards.
Ouais, mais personne connaît les Ping Awards, si.
C'est pas sympa pour les Ping Awards.
Quelqu'un connaît les Ping Awards?
Ah oui. Ah bah oui, mais lui il triche. Bon, toi tu connais. D'accord. Allez, dis-nous.
Philippe Ulrich. Voilà.
Exactement. Donc, bah, le plus important à retenir sur l'arche du Captain Blood, c'est que donc Philippe Ulrich avait créé R Informatique, qui deviendra pas très longtemps plus tard Cryo Interactive, un des plus gros studios de la France et même de la French Touch.
Qui a rencontré le mur en 2002 également.
Exactement. Voilà. Et puis, bah, on retiendra son système de dialogue par icône,
voilà,
qui permet de discuter avec
de langage extraterrestre, qui n'est pas sans avoir inspiré Outzer, dont vous pouvez voir les différents jeux présents dans l'expo à l'entrée.
Bon, là, c'est facile.
Là, tout le monde connaît.
C'est bon, c'est Eric Chahi, cette fois. À chaque fois, Eric Chahi, on lui met tout sur le dos. Bah oui, Another World, alors c'est vraiment pas la caricature, mais on va dire c'est vraiment l'image d'Épinal du développeur tout seul dans son garage. Alors là, il était pas dans son garage, il était dans sa chambre. Mais donc Eric Chahi qui est, ouais, il a créé en fait un des premiers représentants du platformer cinématique. Je pense que Limbo et d'autres jeux lui doivent pas mal de choses. C'était aussi, voilà, on voit des graphismes plutôt. Alors ça, c'est peut-être l'édition anniversaire entre parenthèses.
Ça triche, c'est peut-être la version HD.
Ouais, c'est peut-être la version HD. Mais Eric Chahi avait créé un moteur qui lui permettait de faire des animations avec des polygones. C'était plat, hein, c'était pas des polygones en 3D. Mais voilà, c'était une grosse avancée. Ça, le moteur a été réutilisé plus tard par un compositeur pour créer une de ses couvertures. C'est 2080 que vous devez connaître pour son plus gros tube My Mega Drive. Non, ça vous dit quelque chose? Non, pas du
non,
tout.
T'as fait un bide.
Pourtant, c'est connu. Voilà. Et il a travaillé 2 ans, Eric Chahi, sur ce jeu, quasiment tout seul. Pas tout seul parce que la musique a été faite par quelqu'un d'autre. Et il s'était pas mal inspiré de la rotoscopie qui avait déjà été utilisée sur Prince of Persia pour faire ses animations. Donc en fait, c'est presque lui. En fait, c'est presque sa carrure qu'on peut voir. Dans le personnage.
Et puis bah, Delphine Software quand même, qui a été à l'époque l'éditeur de beaucoup de jeux. Est-ce que des gens ici connaissent Delphine Software et tous les jeux? Ah, il y a quand même pas beaucoup. Donc continuons le.
On peut dire que Netherworld est au Muséum d'art moderne de New York depuis 2012, dans la collection des jeux vidéo. Alors, ce n'est pas Eric Chahi. Mais alors qui c'est? Oui.
J'ai cru l'entendre.
Je l'ai entendu, ouais, juste à côté de toi. Paul Cuissé, exactement. Alors, souvent, on confond Another World et Flashback et on pense que c'est une suite, alors que pas du tout. Mais Paul Cuissé et Eric Chahi ont des liens, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Les Voyageurs du Temps un peu plus tôt dans leur carrière.
Plus tôt, oui.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Paul Cuissé qui a aussi fait Motorizer, mais je crois qu'on en revient dessus après.
Dune, effectivement, là, quand même, il y a des indices sur l'image.
Bon, bah là on est déjà chez Cryo Interactive, c'est-à-dire que R Informatique est déjà devenu Cryo. C'est probablement, enfin, on dit souvent que c'est une des meilleures adaptations d'une licence en jeu vidéo parce qu'on retrouve complètement l'esprit de Dune. C'était aussi un des jeux qui possédait la synchronisation labiale, alors de son temps, mais il y avait plusieurs animations. Pour, voilà. Et c'est un des premiers jeux CD-ROM aussi, qui était sorti en 93. Un des autres premiers jeux CD-ROM qui n'est pas français, c'est Seven Guests. Ouais.
Ah, il y a des gens qui ont grandi avec.
Il y a des gens qui ont subi. Non, mais c'était bien une fois qu'on débloquait les petits jeux à l'intérieur.
Je sais pas, moi j'ai pas connu Adibou, en fait, j'ai pas joué.
Bah, on pouvait débloquer des jeux, je crois. Alors, peut-être pas dans le premier, peut-être que si, mais on pouvait débloquer les autres jeux du. Donc, c'est le développeur, c'est Cocktail Vision. Et on pouvait débloquer Goblins, il me semble, mais peut-être dans des versions supérieures. Oui, parce que, alors, du coup, on n'en parle pas trop après, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeux ludo-éducatifs, comme on disait.
Il y en a encore.
Des ludiciels, enfin, je sais pas, il y a des noms comme ça. Et on peut citer peut-être Eric Vienno qui avait fait. Alors comment ça s'appelait? Eric Vienno. Là, ici,
non,
j'ai
pas, là. Non, mais on en reparle après de toute façon.
Ouais, Eric Vienno avait aussi pas mal
fait. Quand on sera vers Marseille.
Ouais, de jeux ludo-éducatifs.
Voilà. Donc là, question.
Bon, là c'est facile parce que c'est écrit dessus.
Ah voilà, mais le titre complet, c'est pas facile.
Donc ça, c'est en 94 et c'est toujours Cocktail Vision. Voilà. Motorizer, on en parlait.
97.
Ouais, c'est bien.
Donc
on peut
avance.
Passer plus rapidement.
Toujours chez Delphine Software. Voilà, les grandes heures de Cryo. Mais
Ouais. Bah là, on est en 96. Du coup, on est revenu un petit peu en arrière. On va revenir sur Cryo après. Mais voilà, c'était un peu la French Touch commençait à arriver, on va dire. Alors la French Touch, je sais pas trop comment on peut la définir, mais en gros c'est des beaux jeux et puis c'est tout. Alors c'est pas Myst parce que Myst n'est pas du tout français. C'est Atlantis, ouais. De Cryo, et la même année ils ont aussi sorti ce jeu-là, Egypte. Donc Cryo, c'était une société qui était en bourse, il me semble.
Ouais, c'était gros.
Tout comme un autre studio dont on va parler plus tard vers Bordeaux. Et en effet, ils ont eu des problèmes en bourse, on va dire, en 2002.
Le crash 2001-2002, il ne les a pas épargnés.
Il y a quand même marqué sur nos notes qu'à la suite du licenciement de, enfin, à la suite de ce crack, il y a plus de 80% des personnes qui ont été virées de la boîte.
Et 12 personnes cassées, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà 100.
Et il restait 12 personnes après.
Donc ils étaient une centaine. Ce qui est intéressant de voir sur ces sociétés qui ont malheureusement périclité, c'est que c'est d'elles que sont nés les studios d'aujourd'hui souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des studios contemporains qui sont des anciens de. Qui du coup n'ont pas arrêté de faire du jeu pour autant, pas parce qu'ils étaient plus employés chez Cryo ou chez d'autres dont on va parler tout à l'heure qu'ils ont arrêté de faire du jeu, et c'est comme ça que sont nés beaucoup de studios.
Là on était complètement dans le jeu d'aventure,
ouais.
Et aussi un peu dans l'éducatif parce qu'on...
Le culturel,
ouais.
Cryo avait un côté...
Parce que voilà, on pouvait découvrir des facettes de l'histoire.
Et je pense que ça finance aussi le culturel.
Moi je pense que ça a aidé à financer, ouais. Les gouvernements sont plutôt contents de
voilà.
Ça.
Alors,
on est toujours dans le jeu d'aventure. La Merzone, tout à fait. Et son auteur, on va dire, enfin son concepteur.
Socal.
Benoît Socal, exactement.
Et le studio White Birds, donc, qui s'était fait une spécialité de faire de travailler avec des auteurs de bande dessinée pour faire des jeux.
Tout à fait. Et ils ont une saga un peu plus connue, dont le numéro 3 va sortir ou est sorti. Non, est sorti, je crois. Et qui est Siberia,
ouais.
Voilà, qui est sorti en 2002.
Voilà. Le premier.
Ouais, le premier.
Top Spin,
exactement. Un nouveau, tu veux dire? Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le studio de développement?
Personne connaît, non?
Non.
Je connaissais pas, donc.
Ouais, c'est PAM Development. Voilà.
Ils ont fait d'autres trucs?
Ils ont fait beaucoup de Top Spin.
Trackmania, en effet. Donc là, on est déjà en 2003. On est toujours sur Paris, mais on est en 2003. On vient de passer le gros crash. Mais Nadeo, ils ont été fondés quand d'ailleurs?
Nadeo, c'est en 2000.
Donc voilà, voilà, on est sur le passage de relais entre les structures qui malheureusement ont dû arrêter leur activité et les nouvelles qui se lançaient innocemment alors que tout le monde était en train de s'écrouler.
Oui, et c'est une grosse réussite Trackmania dans le monde entier, parce que, enfin, pour ceux qui ne connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas Trackmania. Ouais. Bon, en gros, c'est vraiment génial parce que donc il y a tous ces loopings qu'on peut faire avec les voitures, et surtout on peut jouer à énormément de joueurs sur les maps, et les voitures ne collisionnent pas, donc
et on peut éditer les niveaux.
Et on peut éditer les niveaux aussi. Donc c'est vraiment un très bon jeu.
Ça a fédéré une très grosse communauté.
Nadeo a été racheté ensuite par Ubisoft un peu plus tard.
Pas mal plus tard, non?
Très longtemps plus tard, ouais. Genre 2015 ou peut-être un peu avant.
Alors là, c'est...
Ça, c'est dur, hein.
Ouais.
C'est dur, mais c'est un de mes jeux préférés, alors ce serait bien que quelqu'un le connaisse. C'est une mémoriam.
Une mémoriam, tout à fait.
Alors, le principe, on est toujours dans la logique de jeu d'aventure à la française, mais Eric Viennot, qui travaillait chez Lexis Numérique, Lexis Numérique n'existe plus maintenant, en 2003 sort In Memoriam, un jeu qui est
un jeu en réalité alternée.
Un jeu en réalité, ouais.
Voilà. En réalité alternée, c'est-à-dire qu'en fait le jeu vient vous proposer une suspension d'incrédulité dans votre quotidien. C'est-à-dire que, et d'ailleurs j'avais trouvé le packaging US du jeu était bien plus sympa, ouais, qu'en France. En France, il était vendu dans une boîte c'est un CD dans une boîte. Aux US, le concept, c'est que c'est un tueur en série qui challenge les joueurs.
Qui a kidnappé deux journalistes.
Voilà, qui challenge les joueurs de l'arrêter quelque part. Il leur envoie un CD. Et en fait, le CD aux États-Unis était vendu dans une pochette en plastique marquée Evidence, comme les preuves de police.
Ouais, aux États-Unis, voilà. Le jeu s'appelle Missing. Donc, du coup, c'est vraiment Missing, et il y a les deux personnages, les deux journalistes qui ont disparu, et le joueur va alterner entre le CD-ROM et des recherches sur Internet pour retrouver sur des vrais faux sites qui permet. Alors ça se voyait facilement quels étaient les vrais faux sites créés par Lexis.
Il va recevoir. Il y a quand même des articles sur le site de Libération qui étaient des, ouais, articles pour In Memoriam, qui est des artistes fictifs. Et il y avait aussi des interactions avec le SMS. On pouvait recevoir des SMS du
dans le deuxième.
Du tueur, dans le deuxième. Ah oui, dans.
J'habitais à Paris à ce moment-là et, ouais. et j'ai reçu des SMS du tueur qui était devant ma porte.
Voilà.
La nuit, ça fait bien plaisir.
C'est ça. Et des acteurs également avaient été embauchés pour pouvoir répondre à des appels téléphoniques.
Ouais. Donc c'est un de mes jeux préférés parce que ça mélange cinéma et jeux vidéo et bon, bref.
Oh. Alors, un jeu maudit.
Qui était pas mal. Hein.
Qui était très bien. Il y avait un bon potentiel. Personne ?
Un MMO.
Un français. MMO français. Rhizome.
Oui.
Il y en a qui trichent là-bas.
Alors, développé par Nevrax, qui a plusieurs créateurs, mais dont un qui s'appelle Olivier Lejade, et qui a créé un peu plus tard Make and Sleep.
Dont on va reparler,
ouais.
puisque j'ai vu qu'un autre de leurs jeux était présent dans le slide. Donc oui, il y a un MMO français, alors c'est dommage, il a survécu assez longtemps grâce à sa communauté, il me semble.
Bah, une fois que Nevrax...
Il est toujours en ligne.
Oui,
voilà.
Il est toujours en ligne, mais une fois que Nevrax...
Il existe quelque part.
C'est arrêté, il a été repris par la communauté.
Mais il y a encore, Thomas, il y a encore beaucoup de monde sur... Non, hein, ouais. Ouais. Le jeu existe toujours. Pourtant, donc un MMO français qui est sorti en 2006, donc, ou même un peu avant d'ailleurs.
Il n'y a pas eu beaucoup d'autres MMO, on en parlera d'un autre, mais vous le connaissez tous.
Oui.
Alors, le studio. Parce que le nom du jeu, c'est pas très grave. Oui. Non, mais je veux dire, Eugène, alors pourquoi je dis ça? C'est parce que Eugène System est spécialisé dans la stratégie temps réel.
Voilà.
Et donc, du coup, pour moi qui suis un peu naze dans ce genre-là, pour moi tous les jeux se ressemblent un peu. Donc, voilà.
C'est d'accord. Un peu comme les gens quand ils parlent des groupes de métal.
Mais juste, c'était important de mettre. Exactement.
C'est tout pareil.
Okay. Exactement. Mais c'était important. De... Alors, c'est Act of War, c'est un des jeux qui les a fait connaître. C'est important de citer ce studio parce que c'est vraiment. Il est complètement spécialisé dans la stratégie temps réel. Et
puis, là encore, on est en 2005 et c'est un des studios fondés dans les années 2000, alors que les gros studios ancestraux français étaient en train de fermer.
Ouais. Bon, c'est un bon jeu. Hein. C'est pas Gameloft, mais presque. Peut-être bientôt, ça sera Gameloft. Non, c'est Ubisoft. Et là, c'est
Ghost Recon.
Gros Ghost Recon Advanced Warfare.
En 2006.
Warfighter, en 2006. Ah, c'est pas pareil. Mais c'était en 2007. Alors, c'est pas Arkanoid, parce que c'est pas. Je crois pas que ce soit français, Arkanoid. C'est Nervous Breakdown, et le studio. Bon, alors, le studio n'existe plus, malheureusement. Mais c'est un des studios qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo.
Arkedo,
dont les fondateurs étaient Gamy Guermont-Prez, dont on n'entend plus trop parler parce que je crois qu'il a voulu faire autre chose une fois que le studio a fermé. Mais on connaît toujours Aurélien Regard, qui a fait The Next Penelope et qui va sortir l'année prochaine un jeu qui s'appelle Away. Voilà. Et leurs autres jeux connus, c'est Big Bang Mini aussi sur DS. Il y a les Arkedo Series sur 360, sur le Xbox Live Indie Game, et L.I.A. sur PC et console.
On n'a pas fini Paris, mais en même temps, c'est 50% du truc.
Oui,
Paris,
c'est ce
donc,
que je regardais.
On n'est pas mauvais. Hein. Donc, on en a parlé juste avant. Soul Bubbles
de Make and Sleep. Et c'était donc Olivier Lejade.
Voilà.
Olivier Lejade qui a été un des. En fait, c'est le premier qui a accueilli la Global Game Jam en France, qui a permis que la Global Jam se diffuse en France. Et j'avais fait cette Global Game Jam. Et je suis complètement tombé amoureux.
Des Game Jam.
De Soul Bubble.
De Soul Bubble.
Et oui, Just Dance, quand même. Il faut le citer parce que c'est un succès mondial. Et surtout, c'est un jeu qui est basé sur une vous voyez sur en fait à Ubisoft à ce moment-là il y avait des je sais pas si j'ai le droit de le dire mais il y avait des il y avait des recherches sur faire des jeux avec des caméras justement et souvent c'était plutôt pour le joueur c'est-à-dire pour capter le joueur donc c'était à l'époque de Kinect et des trucs comme ça Ubisoft avait fait une petite application pour qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui sur Snapchat c'est-à-dire de pouvoir se mettre n'importe quoi sur le visage. Mais ils avaient utilisé du coup leur technologie pour c'est exactement la même technologie que Rayman aussi, Rayman Origins, le UbiArt Framework, mais ils avaient utilisé leur technologie caméra pour faire ce rendu de danseurs. Voilà. 2009, Ubisoft. Voilà. Par le Godard du jeu vidéo français.
Pour reprendre l'expression pour reprendre d'hier.
C'est Le Monde, je crois, non, qui a fait un article. Ah, l'Express. L'Express. Ouais. Heavy Rain, bah oui, c'est important de le citer parce que David Cage est un des créateurs voilà, les plus emblématiques sur la scène française. Ça, on continue dans la veine jeu d'aventure.
Et pour le coup, c'est un de ceux qui a traversé la crise. Alors, il ne fait pas des jeux très souvent, c'est peut-être pour ça.
Ouais.
Mais leur premier jeu, Quantic Dream, Nomad Soul, qui était quand même un jeu fait avec David Bowie.
Oui.
C'est quand même pas rien. Est sorti en 97 et donc là c'est Heavy Rain on est en 2010 et il continue de faire des jeux et voilà, donc c'est un des studios qui pour le coup s'est pas fracassé en 2002 et continue d'exister et d'avoir sa patte très particulière.
Ouais, tout à fait. Et ils sortiront, est-ce que c'est l'année prochaine Détroit Become Human? D'accord, printemps 2018. Alors c'est
pas Evenline, non.
C'est pas français.
Parce que Line, c'est islandais. Ce on aimerait bien que ce soit français, oui. Non, Endless Space, dont vous pouvez voir le deuxième opus et une expo le concernant également dans l'espace jeux vidéo. Et donc par Amplitude, qui sont des anciens d'Ubisoft.
Ouais. Alors bon, beaucoup de studios sont en fait des anciens d'Ubisoft.
De facto.
Ouais. Ils ont été rachetés par Sega en 2016. Mais ils ont, enfin bon, ils continuent en fait de faire leur jeu. Donc on peut compter Endless Space. Il y avait aussi Endless Legends. Je sais pas si c'était le deuxième ou pas.
Et Dungeon of the Endless.
Et Dungeon of the Endless. Ouais. C'est un studio qui est important parce qu'en fait c'est un des seuls studios qui utilise sa communauté pour créer les jeux.
Oui, alors on en parlait hier de la façon dont on crée les jeux et effectivement là pour le coup eux ils ont élevé au rang de d'art ou de, en tout cas de c'est vraiment dans leur process de création d'impliquer la communauté de joueurs pour co-designer une partie du jeu.
Remember Me. Développé par Dontnod, des anciens d'Ubisoft.
Encore?
Incroyable.
Il n'y a pas que des anciens d'Ubisoft non plus.
Non.
Mais oui, il y en a beaucoup à Paris.
En 2013, un jeu qui probablement n'a pas reçu le succès qu'il aurait dû. Édité par Capcom. Alors on a failli ne oublier ce studio alors qu'il crée plein de jeux à Paris. Et le studio du coup? Cyanide.
Alors qui s'est spécialisé et qui a fait une partie de son activité sur les jeux de sport, d'ailleurs par goût personnel de son fondateur et dirigeant qui est un fan de sport.
Pro Cycling Manager.
Voilà, et donc notamment la série des jeux sur le Tour de France, les Pro Cycling Manager qui sont remis à jour tous les ans, mais aussi sur le rugby.
Et c'est un studio important aussi parce qu'ils sont connectés à un des plus gros publishers français qui est Focus Home Interactive.
Voilà, et ils ont réussi à attraper des grosses licences comme Blood Bowl ou Game of Thrones.
Tout à fait. Ah, fondé en 2000 par des anciens d'Ubisoft. Là, on est en 2014, donc on est assez proche.
On est presque arrivé.
Pig the Cat, tout à fait. Développé par Pasta Games. C'est un studio qui n'hésite pas à faire de la commande. Alors souvent les jeunes développeurs pensent que la commande c'est pas bien, que c'est affreux, ouais, voilà. Et ce que dit Fabien Del Piano, un des créateurs de Pasta Games, c'est que au contraire ça leur permet d'être plus libres. Ils peuvent apprendre des choses tout en n'ayant pas forcément toutes les responsabilités sur le projet. Et puis bah ça permet aussi d'engranger des sous pour ensuite faire les jeux qu'on a vraiment envie de faire. Mais quand en fait ils font leurs jeux à commande, ils ont envie de les faire quand même. C'est-à-dire que c'est de la commande créative. Voilà.
Et puis là ils font, en ce moment ils sont sur de la belle commande quand même.
Je sais pas. Ah oui, en ce moment, oui, mais on va en reparler après.
On
avec
parle après. Bien.
Alors c'est Dontnod aussi, voilà, qui s'est un peu rattrapé après Remember Me avec Life is Strange.
Rattrapé dans le sens rencontrer le succès.
Oui, tout à fait. Ah oui. Je ne juge pas, on ne juge pas. Et bah oui, gros succès.
Il y a des gens, qui a joué à Life is Strange? Ah, il y a quand même pas
beaucoup
mal de monde. Hein. Et sur Remember Me, ça donnait quoi? Ouais, c'est ça.
Un peu moins.
Ok.
Un jeu important parce qu'il reprend tous les codes de la série télé. Et donc, il est sorti en plusieurs épisodes à quelques mois d'intervalle. Voilà. Édité par Square Enix.
On arrive, 2016.
J'ai entendu par là.
Ouais. Mother Russia Bleed, le cartel studio. Est-ce que c'est le premier jeu qui a été sorti français qui a été pris par Devolver Digital? C'est possible.
Peut-être, je sais pas.
Je pense. En tout cas, je suis jaloux. Voilà, je suis jaloux.
Ah, je sais pas, Reign, c'est presque français.
Alors, qui prend complètement ses racines dans. Ouais, mais c'est sorti après. Qui prend ses racines dans les jeux de combat comme Street of Rage. Voilà,
voilà le récent Absolver.
Par Slowclap.
Qui était aux Utopias l'année dernière.
Oui, tout à fait.
En démo.
Alors, c'est un jeu intéressant parce qu'il permet. En fait, c'est un jeu de combat pas totalement un contre un. En fait, on se balade dans un monde et des fois c'est des NPC, des fois c'est des joueurs. Et les joueurs peuvent s'apprendre des techniques entre eux. Chose qui ne s'est jamais vue avant. Ouais. Alors là, c'est plus dur. Ouais, c'est Gridfall, exactement. Alors, Spiders, on les connaît parce qu'ils ont fait une expo aussi l'an dernier, il me semble, aux
Ouais,
Utopias.
Et puis il y a quelques années avant sur Mars. Donc, ils avaient présenté Mars la première fois et Technomancer il y a 2 ans ou l'année dernière.
C'est aussi un studio qui est spécialisé et eux, ils sont spécialisés dans le RPG et le action RPG. Voilà. Donc, ils sortiront Gridfall. Voilà, c'est to be announced parce que je ne sais pas la date.
Il faut demander à Jeanne qui était là hier sur les conférences et qui sera là encore aujourd'hui.
Ah, on change enfin.
Enfin, mais pile poil, hein. Enfin, presque pas pile poil. Bon, voilà, on vous avait dit Paris, c'est le plus gros. Et voilà, donc on va passer sur les régions, mais du coup, on va être obligé d'aller vite si on veut faire toutes les régions.
Tout à fait. Bon, on va aller vite sur Marseille, Nice, Cannes. En fait, on les a rassemblés parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de studios.
Alors, vous allez voir que c'est très disparate. Et,
c'est là. Tu voulais dire.
Non, mais c'est très disparate, mais surtout, on voit que c'est là où il y a eu des gros éditeurs ou des gros studios avant les années 2000 qu'il y a le plus de petits studios aujourd'hui.
Alors, Exquis, un studio qui avait sorti en 2008 eFluid. Alors, ça se voit pas bien sur le screenshot, mais en fait, on joue une petite goutte d'eau et on se balade dans des décors qui furent un temps photoréalistes. Et donc là, par exemple, sur une orange, on risque rien parce que c'est humide. Par contre, si on va sur des plaques chauffantes,
sur du sopalin,
c'est super dangereux. Ouais. Aujourd'hui, ils font plutôt du mobile. Ils ont fait des applications pour Lapin Crétin et Ghost Recon. Là, on est déjà en 2016. C'est Zombie Night Terror, alors que peu de gens connaissent, à mon avis.
Attends, on est passé de quand 2008
à 2016. Ouais.
On vous a dit que dans le sud, c'était pas terreau. On n'a pas trouvé beaucoup de choses. Mais si vous avez des exemples de jeux marseillais, n'hésitez pas.
Ouais. Et le jeu japonais traduit en marseillais ne compte pas, évidemment. Binary Domain, non. Donc là, on est. C'est développé par Slowclip et c'est édité par Good Shepherd. Donc... Alors, Good Shepherd, Thomas. Good Shepherd, c'est un peu lié à Devolver, non? Ouais.
C'était d'accord. Le nom d'avant.
Ancien Gambitious, exactement. Il est en promo, il me semble, en ce moment sur Steam.
Ah, on fait de la pub aussi?
Ouais.
Ah.
Mais en gros, c'est un peu un Lemmings, mais avec des zombies. Voilà. J'ai trop vite.
J'ai sauté. 2016.
Il fut un temps, il s'appelait Planet Cube, je crois. Non, mais Minecraft est passé par là. Non, c'est Stellar Overload, et ils sont basés à Cannes. C'est le studio Cubical Drift. Donc le principe, c'est que les planètes sont des cubes. Mais en effet, Minecraft fut un temps, est passé par là. Et alors, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Donc,
Ça va être dur à trouver. Il y a des gens...
C'est Edge of Eternity, exactement, voilà. Qui est développé par Midgar Studio.
Et voilà, on a fini. Alors on va aller à Bordeaux. À Bordeaux, il y a plus de monde d'un coup.
Ouais. Donc on va essayer d'aller vite sur Bordeaux, qui se trouve toujours ici.
Surtout qu'on a déjà parlé d'une partie des choses. Donc en 97.
Ouais, Nightmare Creatures en 97.
Et Callisto, un des studios les plus importants de cette région à cette époque.
Ouais. Au début, ça s'appelait Atreid Concept, le studio, et ça a été créé par Nicolas Gaume, alors qu'il avait que 19 ans. Voilà. En 90. Et là aussi, c'est un des studios. Donc, je parlais avec Rio qui était en bourse Et alors eux, ça s'est vraiment mal passé. Ils avaient prévu en 2000 un chiffre d'affaires de 170 millions de francs et ils avaient gagné que 19 millions de francs.
Ce qui faisait un petit déficit à la fin.
Voilà.
Du coup, ils ont fermé.
Ouais, ils ont fermé, mais c'est pas grave parce qu'ils avaient fait le cinquième élément et ça, c'est inadmissible en termes de jeux vidéo. Donc, voilà.
C'est une sorte de punition, c'est ça que tu veux
c'est
dire?
C'est ça. La Brute. Et le studio Motion Twin.
Voilà, un des premiers jeux qui a été très connu de Motion Twin.
Ouais.
Pourtant, pas du tout leur
ils
premier.
Ont fait d'autres jeux,
ouais, ils en ont fait
La
plein
Horde.
Et plein après.
Ou Horde, juste.
Ouais.
Et c'est un studio qui.
Dino quelque chose.
De quoi ?
Il y avait un truc avec des dinosaures aussi.
Ah oui, Park, ils ont fait beaucoup de jeux.
Comme ça.
Ouais. Et c'est un studio dont tous les employés sont.
C'est une scope.
C'est une scope.
C'est ça que tu voulais dire ?
Oui.
Voilà.
Mais donc tous les employés sont actionnaires, en fait, de quoi ?
Sont actionnaires du coup.
Sont actionnaires.
En scope.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez rare en fait. Alors c'est. Asobo Studio, exactement. Qu'on connaît aussi pour.
C'est Thomas, il triche.
Non, mais c'est bien, il fait avancer les trucs. Qu'on connaît aussi pour des adaptations, des très bonnes adaptations de licences Disney comme Ratatouille. Mais c'est vrai, hein, c'est pas ironique pour une fois. Voilà. Et qui travaille en ce moment sur un jeu qui va être édité par Focus.
Evoland, tout le monde connaît apparemment.
Comment a commencé Evoland ?
Une game jam. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Qui ne sait pas ce que c'est qu'une game jam ?
Non, c'est bon ça.
Tout le monde sait, c'est bon.
Tout le monde sait. Qui a commencé, voilà, sur une game jam. Shiro Games, qui a aussi fait Northgard en 2017.
Qui vient de sortir, qui est toujours en.
Toujours en développement.
En Early Access. Voilà.
Ou qui en est peut-être sorti il n'y a pas si longtemps, ouais.
Non, il est toujours en Early Access.
Ok.
Et qui est un très gros succès.
Ouais. Shiro Games, qui sont des anciens. De Motion
de
Twin.
Motion Twin dont
ils n'ont pas
dû parler avant. Il y avait un piège. Dead Cells, tout le monde connaît aussi.
Qui est de Motion Twin, mais alors bien, bien des années après La Brute, et qui est probablement leur plus gros succès.
Leur plus gros succès, enfin un très gros succès en tout cas.
Un très gros succès, ouais. Parce que La Brute c'était quand même quelque chose. Quoi. Alors là, je pense que c'est pas facile. Parce qu'il vient juste de sortir, je crois, non ? Ouais. Power Umi de Manufacture 43 qui est un jeu d'aventure comme vous pouvez le voir. Non voilà, un gros manic shooter. Alors on peut quand même dire qu'à Bordeaux maintenant c'est installé Ubisoft.
Tout à fait, récemment Ubisoft s'est implanté à Bordeaux. Ubisoft c'est dans plusieurs villes, ce qui génère d'ailleurs dans ces villes plein d'autres petits studios, et Ubisoft a failli être à Nantes mais finalement est à Bordeaux.
Angoulême,
j'ai ajouté Angoulême, ouais, parce que bah quand même.
Bah je viens d'Angoulême.
Je voulais pas mettre Bordeaux en fait. Enfin, on aurait pu faire
oui,
comme tu avais fait pour mettre.
Je viens d'Angoulême, mais je pensais pas qu'il y avait.
Du coup, j'ai décalé le petit rond. C'est sorti. C'est pas encore.
C'est pas encore sorti. Un rhythm game. Avec du métal, du gros métal.
Ouais, du gros métal. Donc,
Double Kick Heroes.
Double Kick Heroes de Headband Club, qui est donc en cours de finalisation, et que je vous conseille, qui donc est un studio basé à Angoulême. Angoulême qui abrite aussi l'Engmin, qui est quand même une des formations.
Qui est la seule école publique.
La seule école publique qui forme aux jeux vidéo.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'avais précisé Angoulême.
Il y avait d'autres studios à Angoulême, comme What Entertainment.
Et donc Lyon, qui est ici.
Lyon, il y a du monde. Et puis on va revenir dans le temps, du coup.
Voilà, du coup, on remonte loin dans le passé.
Alone in the Dark, exactement.
1992. On pourrait demander aussi l'année, des fois.
Ah oui, oui.
Mais au début seulement, parce qu'après, on sait que ça suit. Quoi.
Alors, qui n'a pas été fait que par Frédéric Rénal, mais souvent, on met Frédéric Rénal plus en avant. Édité par Infogrames, qui était aussi un gros éditeur en France. C'est le tout premier Survival Horror.
Et fun fact, le responsable des expos utopiales, Gilles Francescano, a fait la peinture de la couve.
D'accord, ok, bah, je ne savais pas. The more you know.
Je crois que Frédéric Rénal non plus.
Ok. Et donc, oui, premier Survival Horror et un des premiers jeux à utiliser de la 3D polygonale. Alors, les décors ne sont pas en 3D temps réel, c'est du précalculé. Voilà. Et c'est aussi un jeu qui est assez connu parce que. Il y a toute une histoire fleuve autour de la notion du droit d'auteur, puisque Infogram avait fait en sorte que Frédéric Reynal ne touche pas ses droits d'auteur et ne soit pas au générique.
Fabuleux. Mais en tout cas, ça a lancé toute une série de jeux, un genre presque, avec le survival horror en 3D, ouais. Comme ça.
Alors, les concepteurs de Resident Evil disaient que non au début, qu'ils connaissaient pas Alone in the Dark. Et après, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit.
Et ils ont fini par avouer.
Ils ont fini par avouer, quand même. Ça se voyait un peu en même temps.
Ouais. LBA, tout le monde a l'air de connaître.
Toujours par Frédéric Reynal et son équipe. Mais cette fois-ci chez Adeline Software, leur propre studio. Voilà, Little Big Adventure.
Verali 97. Donc on a
une simulation de savonnettes.
Il y a 20 ans, on simulait des savonnettes, tout à fait.
Alors, c'est le studio, c'est Eden Games.
Ah oui, Eden,
c'est important parce que c'est un gros studio.
C'est un des très gros studios lyonnais.
Là, c'est plus dur. Kaya, exactement, qui est aussi développé par Eden et qui a été édité par Atari.
Et on est en 2003, et là on passe en 2006 directement.
On est toujours chez Eden Games.
Avec Test Drive Unlimited, tout à fait.
Ouais.
Ils sont bons au quiz. Hein.
Ouais.
Ils sont meilleurs que moi, je suis sûr. Spyro, tout le monde connaît Spyro.
Alors Spyro, c'est pas français à la base.
Non.
Mais un studio lyonnais a réussi à avoir le droit de faire un jeu Spyro. C'était qui? Étrange Libellule. Il y a des gens beaucoup trop qui connaissent beaucoup trop.
Il y a des gens qui sont très calés.
Donc on était en 2008 là. Ouais. Alors ils sont aussi connus parce qu'ils ont fait des jeux Kirikou et puis un jeu Astérix et Obélix XXL. Dishonored, tout à fait.
2012, donc un gros studio, aujourd'hui un gros studio international d'ailleurs, puisqu'ils sont aussi à Austin. Arkane Studio, et qui était à Lyon à l'époque, et c'est pas leur premier jeu. Leur premier jeu, quelqu'un connaît? Arx Fatalis, tout à fait, qui était un hommage à Ultima Underworld.
C'est vrai que j'aurais dit Conan aussi.
Ah non, Ultima Underworld.
Oui, mais je...
C'était des fans d'Underworld.
Et qui ont été... Est-ce qu'ils ont été rachetés par Bethesda? Je pense, non?
Oui, ils font partie du groupe, oui.
Ils font partie du groupe, ouais. ZeniMax.
ZeniMax, tout à fait.
Alors, ce sont des anciens d'Eden. Qui sont maintenant des Ubisoft.
Ah, c'est l'inverse.
Ouais, c'est l'inverse. Donc c'est Ivory Tower qui a créé The Crew en 2014. Donc ça suit un peu Test Drive Unlimited finalement. On est toujours en 2014. Et il y a une expo.
Et il y a une expo, et on en a parlé. Et c'est à Lyon, mais c'est pas que à Lyon quoi.
C'est pas que à Lyon.
C'est un
parce
peu particulier,
que...
Miklo, puisque Fibre Tigre, qui est l'auteur, est à Paris, et Michael Pfeffer, lui, est à Lyon pour le coup.
Tout à fait.
Un très très gros succès, hein.
Bah oui.
Voilà. 700 000 ventes, quelque chose comme ça, sur Out There.
Donc, Out There. Un autre jeu dans l'espace qui est sorti la même année. Et là, personne ne saura le nom du studio, sauf si des petits malins donnent le nom là-bas. Ouais. C'est Pastèque et c'est Space Run. Pastèque qui est un des premiers jeux, alors un des premiers petits jeux, on va dire, à avoir été édité par Focus Home Interactive.
Il faut qu'on avance.
Ouais, t'as raison. Ça aurait pu être un Alone in the Dark, mais c'est White Knight, créé en 2015 par Awesome Studio et édité par Activision.
Alors on va sauter à Montpellier.
À Montpellier, c'est chez moi. Donc,
mais tu vas vite quand même.
Je vais aller vite là.
Très vite pour
c'est ici Montpellier. Ouais. Bon, alors Rayman, voilà, c'est un peu le. Je pense que c'est même pas la peine de le présenter, mais voilà, c'est la mascotte du. Ça a été la mascotte d'Ubisoft pendant de longues années avant que les lapins crétins ne lui cassent la figure.
Il lui succède.
Mais ça va, c'est le même créateur, c'est Michel Ancel. Bon, Beyond Good and Evil.
Toujours voilà. Michel Ancel.
Toujours Michel Ancel. On va aller vite là-dessus. King Kong. Car des fois, la France arrive à faire des gros gros jeux à licence. Là, sur King Kong, c'est un jeu intéressant parce que le personnage n'arrêtait pas de dire combien il restait de. En fait, il n'y avait pas de HUD d'interface et le personnage disait tout le temps combien il y avait de balles dans son pistolet. Il disait oh là là, il faut que je fasse très attention, j'ai que 3 balles. C'était vraiment très bien. Non, c'est vrai. Et il y avait tout un système de comment dire, d'écosystèmes où on pouvait prendre des insectes et les amener à un autre endroit pour attirer des bêtes et tout ça. C'était vraiment très très sympa. Et voilà, les assassins de Rayman, ils sont là. En 2006, avec Rayman contre les lapins crétins.
Pour leur début de conquête du monde.
Ouais. Alors, Eric Chahi s'est installé à Montpellier. Et il a fait avec Ubisoft From Dust. Alors, Eric Chahi, qui est un gros fan de volcans, et qui a fait une application sur les volcans il n'y a pas si longtemps pour le musée du volcan à La Réunion. Le studio, le jeu, j'ai l'impression d'être Julien Lepers. Squids, par Game Bakers, Aymeric Toa et Audrey Le Prince, qui sont des anciens d'Ubisoft. Bon, alors là, on est complètement chez Ubisoft, pour le coup. Soldat Inconnu, qui est, voilà, Mémoire de la Grande Guerre, qui est sorti en 2014. Et Johan Fannis, ensuite, a quitté Ubisoft pour monter son propre studio qui s'appelle DigixArt. Toujours à Montpellier. Fury, bah, qui est aussi Game Bakers. Donc, voilà, Game Bakers en 2011 et Game Bakers en 2016. Alors, ça, c'est moi. Donc, c'est Swing Swing Submarine avec Seasons After Fall.
Qui était présenté l'année dernière.
Oh. Ouais,
j'ai un problème de micro qui a un câble cassé.
On a bien galéré, on a mis des années à le faire. Enfin, quand je dis des années, c'est beaucoup trop longtemps. C'est plus de 5 ans.
Et des anciens d'Ubisoft.
Des anciens d'Ubisoft, ouais. Exactement. Bah, tiens, un autre ancien d'Ubisoft. C'est mon colocataire, en fait. Donc je le mets, hein, voilà. Non, mais en fait, Splasher, qui est sorti bah, cette année, et qui est sorti il y a quelques semaines, je crois, sur PS4 ou sur... Non, sur Switch. Mélange Super Meat Boy et Portal 2 avec brio, voilà. Et donc là, ça c'est Michel Ancel. Alors c'est pas lui là, mais c'est Michel Ancel.
Ça c'est Michel Ancel avec son corbeau préféré.
J'allais dire qu'il commençait à devenir indépendant, mais là en effet il est vraiment très très indépendant.
Il est libre, très libre, voire sauvage.
Il travaille toujours avec Ubisoft, mais il a aussi monté son studio qui s'appelle Wild Sheep. Et le moteur de Wild est, entre autres, créé par Fabien Delpiano de Pasta Games.
Voilà, dont on parlait tout à l'heure. Et on arrive à Nantes. Alors à Nantes, on a un problème. Je vais aller vite aussi, hein, parce que c'est pas parce que c'est Nantes qu'il faut traîner. C'est la Nantes, des fois que vous auriez oublié. À Nantes, en fait, il n'y avait rien. Et Thomas, t'es toujours là ?
Oui.
Regarde pas l'écran. 1999, il y a un premier studio qui s'est créé à Nantes qui s'appelait Mediaforce, qui a été monté par un ancien auteur de jeux à succès sur Minitel. Et oui, car à l'époque, on sortait du Minitel, on arrivait dans l'ère de l'informatique et de l'Internet. Et bah, c'était un projet très ambitieux de MMO sur la base des romans Hyperion de Dan Simmons, qui n'a jamais vu le jour, et qui était soutenu par Goa, la filiale à l'époque de France Télécom. Sur le jeu vidéo. J'ai pas dit bêtise, Thomas ? Voilà. Mais bon, voilà, Mediaforce a été un peu hors sol. Il n'y avait pas d'industrie de jeu vidéo encore à Nantes. Mais assez rapidement, des gens sont venus s'installer. M-Zone, alors là, pour tout coup, des anciens, non pas d'Ubisoft, mais de Cryo, qui sont venus s'installer à Pornic pour faire principalement de la production graphique pour beaucoup d'autres studios, en fait. Pour le coup, c'était vraiment une grosse équipe de graphistes avec ici un jeu, peut-être que Nicopole, tout à fait. Donc sur les bandes dessinées de Denki Bilal. Et studio qui a malheureusement fini par fermer.
Mais tous les studios fermeront un jour. Hein.
Oui, oui, probablement.
Mais il y en a d'autres qui vont.
Bon, j'ai mis celui-là juste pour la blague, mais c'était pour dire qu'il n'y avait vraiment rien à l'époque à part M-Zone. Succubus Interactive qui a été fondé en 2002 et qui n'a jamais fait de jeu à mon vendu, donc là c'est un jeu que vous avez peut-être vu, c'est pour ça que je l'ai mis, vu qu'il était diffusé à Nantes uniquement, c'est un petit jeu d'aventure publié par la ville de Nantes. Plus intéressant, Outcast. Et oui, alors Outcast n'a pas été créé à Nantes, mais l'un des fondateurs, des gens qui travaillaient sur Outcast est venu s'installer à Pornichet et il travaille actuellement sur le reboot d'Outcast, donc un Outcast HD. Je sais pas trop où ils en sont d'ailleurs.
Je crois que c'est bientôt fini. Hein.
Ouais, ouais, probablement.
Ils refont de la promo maintenant, donc je pense que c'est bientôt fini.
Voilà. Alors.
Aucun mec.
Qui connaît ? Voilà, qui connaît ? Forcément. Mais c'est un studio très important à Nantes, c'est le plus gros aujourd'hui. Il s'appelle B-Move. Ils sont pas forcément très connus, mais voilà, Mabimbo c'était sans doute leur plus gros succès puisque quand il est sorti, enfin pas très longtemps après être sorti, il est sorti en 2006, enfin entre 2006 et 2011, voilà, il a réussi à atteindre plus de 10 millions de joueurs, qui étaient sans doute d'ailleurs principalement des joueuses. Donc un très gros succès sur Internet et très certainement le plus gros succès nantais, qui continue de faire des jeux et notamment des visual novels de romance. Donc voilà, un pan de jeux vidéo que vous ne connaissez peut-être pas, surtout qu'il y a beaucoup d'hommes dans la salle, mais un très très gros succès, un très gros studio, voilà, aujourd'hui. Sorti cette année, en juin, personne ?
Drifting Lands ?
Drifting Lands, tout à fait, d'Alchemy Games. Des anciens de Succubus, on va faire comme avec Ubisoft, qui ont fait un mash-up de shooter et de Diablo, qui est sorti donc au début de l'été. Samurai Riot, que vous pouvez voir dans la zone, dans l'espace jeux vidéo, qui vient de sortir il y a un mois ou deux, je sais plus, et qui est donc présenté ici. Je continue pour aller vite, puisqu'il nous reste 5 minutes. Pour vous dire que voilà, il reste des studios à Nantes. Je vous en ai mis quelques-uns. Donc il y a d'autres jeux qui vont sortir. Il y a EOD qui est aussi présent, qui présente son jeu Moonlight. Donc voilà, il reste quelques jeux à Nantes, mais c'est une industrie qui était finalement assez. Qui est née au début des années 2000, c'est-à-dire au moment où toutes les autres se cassaient la gueule.
En fait, ça s'étend maintenant. Voilà. Il y a plus de petits.
Et ça essaime un petit peu, il y a de plus en plus de studios. Rennes, alors je connais pas super bien, mais il y a des gens qui connaissent bien la Bretagne là-bas. J'espère qu'on va pas dire de bêtises. Mais Rennes, c'est important, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça ? Zombie, l'adaptation du film de Romero par Ubisoft en 1986, et c'était à Carantoir, à côté de Redon, donc dans la région de Rennes. Et effectivement, c'était le tout début d'Ubisoft, c'est le premier jeu d'Ubisoft.
C'est le premier jeu,
ouais. Voilà. Tous les anciens d'Ubisoft, mais ils sont partis de là, quelque part. Alors, eux aussi, ils ont fait des jeux Kirikou. Happy Blue Fish, qui est une société spécialisée dans les jeux éducatifs ou les jeux pour aider. Là, c'était un Kirikou qui était destiné aux enfants autistes. Je vais continuer à aller très vite. Ster Eden, tout à fait, de Pixel Nest, en 2014. On avance assez
vite. Le nom est très breton, Ster Eden.
Tout à fait, tout à fait. Winds at War du studio Insane Unity, qui malheureusement a un peu arrêté son activité récemment, mais qui était un RTS ambitieux. Psycho Starship Rampage de Ballistic Frog en 2015, toujours en 2015, mais il va sortir. Voilà, ouais. Enfin, il le présentait déjà en 2015, mais il n'est pas encore sorti. Mais le studio a été fondé en 2015 et Hyper Run, qui est leur jeu qui est en cours de production et de finalisation.
Un jeu qui va très très vite. Et
qui va très très vite.
Très intéressant.
Hein. Ça s'appelle Hyper Run, donc il va très 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 vite. Et très récemment, Almost Game, qui vient de sortir un jeu qui s'appelle Anna the Game, qui est un jeu mobile.
D'accord.
D'enquête, voilà. Bon, bouge pas. Et encore plus loin en Bretagne. Là, ça tombe presque en dehors de l'Hexagone. Et oui, il y a des jeux faits à Lannion et un très gros studio. Donc à part B-Move, si on peut parler d'un gros succès de jeux dans l'Ouest, bah c'est Sushi, le studio de jeu, c'est Sushi avec Goetia, leur premier jeu. Et aujourd'hui, ils travaillent sur Fear Effect pour
Square Enix.
Ouais. Voilà.
Alors, ils ne sont plus à Lannion.
Non.
Mais ils sont toujours là.
Oui.
À Rennes, je crois.
Il est toujours là.
Ouais. Triskel Interactive qui a sorti
Letis. Ah non, encore bien breton.
Oui, Triskel, tu m'étonnes.
Là, on peut pas se tromper.
Letis Pass of Progress en 2015 et Letis Daring Discoverers en 2016 ou 17 ? 17. Cette année.
Cette année, donc 2017. On va directement sauter à Lille qui était aussi un gros pôle et il nous reste 2 minutes pour faire Lille, mais ça tombe bien, c'est la fin.
En cama. Voilà, non.
C'est bon, on a fait Lille, on va passer à la suite.
Bah, c'est le deuxième MMO le plus connu, voilà, Dofus, MMO français.
Que tout le monde connaît.
Obscur, qui était sorti en 2004 chez Hydra Vision, qui était quand même un studio important à Lille.
On a presque fini, on va réussir à faire nos
Transformice 2010.
Très important, un énorme succès au Brésil.
Ouais.
Non, mais c'est pas une blague.
Mais c'est pas une blague.
C'est, je veux dire, de la même manière que personne connaît Bimouf parce qu'ils font des jeux pour les adolescentes, peu de gens en France potentiellement connaissent Transformice, alors qu'il y a des pays dans lesquels il est extrêmement populaire et il fait des millions de joueurs.
20 millions de comptes créés en 2012. Seven Studio, des anciens de Hydra Vision, qui ont créé Inside My Radio en 2015 avec Turbo Dindon. Normal Lost Phone 2017, Accidental Queens, bah, un gros succès.
Hein, et sûrement. Another Lost Phone qui vient de sortir.
Et Another Lost Phone, ouais. Shyness, chez Focus Home Interactive, développé par Enigami, c'est un peu le JRPG à la française. Voilà. Mess, il n'y en a qu'un. Non, il n'y en a pas qu'un. Neurovoider, en 2016, il vient de sortir sur Switch, il est trop bien. C'est un shooter, non, c'est un... Comment on dit, un two stick.
Un twin stick shooter.
Twin stick. Dungeon Rusher chez Goblin Studio, sorti en 2016. Il travaille pas mal en collaboration avec Miklo de Outzer maintenant. Et Losange Lab qui a sorti Swim Out sur mobile, un puzzle game cette année. Et c'est bon ?
Et on a fini ?
Oh, on a réussi.
Et il est pile poil 11h.
Okay.
C'est magnifique.
Magnifique.